RCF. Nous poursuivons avec vous, frère Benoît Standart, notre série d'entretiens sur l'humilité. Dans votre journal de l'humilité, vous citez des petites histoires qui sont racontées par les pères du désert. Alors c'est souvent très très parlant. Il y est question notamment du combat, parce que l'humilité, vous le dites, c'est un combat. Il y a notamment cette petite histoire concernant saint Antoine. Un jour qu'il était ravi en esprit, il vit le monde tout couvert de filets étroitement unis. Et il s'écria « Oh, qui pourra s'échapper hors de ces filets ?» Et une voix lui répondit « L'humilité ». Qu'est-ce que vous diriez sur cette histoire ?
C'est une vision d'une lucidité assez effrayante où il réalise combien tout est piégé. Les lacets qu'il voit sont des pièges que le Satan tend. Mais qui pourra encore être sauvé ? La réponse, elle est pertinente. Et elle reste mystérieuse. Le propre de l'humble, c'est que lui ne se laisse pas prendre.
Par les filets.
Il échappe. En fait, il échappe parce qu'il n'y a plus rien à prendre à l'humble. L'humble n'est plus mutilable, si je peux employer ce mot qui n'existe pas. Macaire, qui est une figure pratiquement tout aussi grande dans le désert, Macaire le Grand, Macaire l'Égyptien, avait lui une vision qu'il a vécu au moment où, avec une faucille, il dégageait les roseaux pour en faire après des paniers, etc. Et les démons viennent et veulent, avec la faucille, lui couper un pied. Et ça ne réussit pas. Et tout penaud, ils avouent, tout ce que vous faites, nous faisons. Vous veillez, nous veillons. Vous jeûnez, nous jeûnons. Vous vivez dans les tombeaux, nous vivons dans les tombeaux. C'est remarquable parce que ça veut dire que tant qu'on ne fait que ces ascèses monastiques, on est un démon. On n'est pas différent d'un démon.
Qui fait la même chose.
Qui fait à peu près la même chose de façon symétrique. Et la petite Thérèse de Lisieux a rédigé une pièce de théâtre sur l'humilité. Et elle met non pas le jeûne, la veille et vivre dans les tombeaux, mais elle met la virginité, le célibat. Elle met l'obéissance. Elle met la pauvreté. Elle dit, si on n'a pas l'humilité, tout ça ne vaut rien. Le démon n'a pas d'humilité.
Oui, vous dites que la pire des choses pour l'adversaire de Dieu, donc le diviseur, c'est l'humilité.
Oui. C'est ce que disent ces textes. Et moi, je n'emboîte pas, évidemment. Je suis que quelqu'un qui écoute. Mais ça ne veut pas encore dire qu'on sait ce que c'est que l'humilité. Mais la belle chose quand même dans l'apophtegme de Macaire, c'est que ce couteau qui veut comme retrancher n'a plus de prise sur l'humble. Dans une des pages, j'évoque le père Charles. Il était passé chez le coiffeur. C'est le couteau. Et dans l'après-midi, après vers 2h30 toujours, il venait prendre une tasse de café. Et je le vois. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est tout à fait rasé, non seulement la tête, mais même sa barbe avait comme disparu. Et c'était comme une peau rose avec des petits poils qui sortaient comme un poulet qu'on avait déplumé. Et je le vois et je lui dis, père Charles, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il se met à sourire, même à rire, et il dit, voilà, j'étais chez le coiffeur, c'était le frère Stani, il cachait pas le nom du novice, et voilà, je lui dis, chez moi, tu peux faire l'arrière et le devant avec le même ciseau, c'est une seule réalité. Et il commence, et jouf, cette barbe disparaît pratiquement. Et lui dit, continue, ça n'a aucune importance. Et il dit, tu aurais dû voir, le père Gilbert, il s'est levé, c'est indécent. Un autre s'est levé, moi je me laisse pas faire par quelqu'un comme ça. Et lui racontait ça comme si c'était la meilleure blague de l'histoire et de la journée, alors que c'était lui la victime. Et que 2 ou 3 jours après, il devait aller en famille avec cette barbe qui n'en était plus une. Et donc ça, c'était lui. On n'arrivait pas, comme je vous disais l'autre jour, marcher sur ses pieds, il sera préoccupé de votre pied, mais pas de ses orteils écrabouillés. Et ça, c'était l'humble complet et qui rigolait comme si c'était la meilleure blague de la journée.
frère Benoît Standart, il y a un combat dans l'humilité, il faut combattre. Qu'est-ce que vous diriez sur cet aspect-là des choses? Là, pour reprendre l'exemple de votre frère qui s'est laissé faire finalement, peu importe la qualité de la tonsure, il était homme, il restait homme finalement. Il faut combattre pour en arriver là. Et que combattre finalement? Parce que vous parlez de l'orgueil aussi.
Oui, l'orgueil et l'humilité tiennent presque toutes les vertus, ont leur antithèse. Le combat chez les pères du désert, dans l'école des Vagres et de Cassien, par exemple, c'était 8 combats. 3 au niveau du corps, 3 au niveau psychique et 2 au niveau de l'esprit, c'est l'orgueil et la vanité. En correspondance avec chacune, par exemple, la boulimie ou la fringale de manger, eh bien, il y a le jeûne et la capacité d'être sobre dans la bouche. Le premier péché de l'homme, c'est la pomme ou
le fruit.
Le péché du jardin. Et bon, le premier combat de l'homme, c'est son appétit. Hein, comme la première structuration de l'enfant, c'est l'enfant qui doit lui-même intérioriser les lois de la maman pour rester en relation. Et ainsi de suite. Il y a des combats. Et l'humilité se joue justement à ce niveau suprême de l'esprit avec l'orgueil et la vanité.
Et qu'est-ce que nous dit l'esprit d'orgueil au fond?
Bien, Saint Bernard avait reçu d'un ami la demande, il semble que tu as commenté les 12 degrés de Saint Benoît sur l'humilité, est-ce que tu veux pas me rapporter ce que tu as dit à tes frères? Et il dit, oh, en amitié, je ne veux pas refuser ça. Mais en même temps, si je réussis à dire convenablement ce que c'est que l'humilité, je vais rater, puisque je vais me satisfaire et être heureux d'avoir bien parlé de l'humilité. Je serai dans l'orgueil et j'aurai raté. Comme moi, avec mon livre, je peux tout rater. Alors il dit, je vais te parler de l'orgueil et les 12 degrés de l'orgueil, car ça je connais. Tandis que l'humilité, j'ai pas la prétention de savoir ce que c'est. Mais quand il arrive à la fin, il dit, maintenant, ne crois pas que je n'ai pas répondu à ta question. Tu me demandes les degrés de l'humilité et je te parle des degrés de l'orgueil. Mais c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Alors, retourne l'échelle et tu verras que si tu descends l'échelle de l'orgueil, tu monteras l'échelle de l'humilité. C'est des bonnes trouvailles rhétoriques. Et en même temps, c'est subtil et ça montre que ces deux choses, ces deux réalités sont terriblement connexes et une certaine façon de discerner et d'être vigilant, et c'est ça le combat, c'est d'être vigilant, c'est pas de refouler tout le temps ou de réprimer tout le temps, mais de discerner et de ne pas céder à ce que j'ai discerné comme un pis-aller et de choisir et d'opter et de m'engager dans ce qui va me libérer pleinement. Donc ce sont pas toujours des combats virulents, c'est des combats de discernement, de lucidité. Et parfois, étouffer un scorpion en le laissant dans la boîte et en n'ouvrant pas la boîte, disent les pères du désert, ça suffit. Une tentation est quelque chose qui, de façon lancinante, peut entrer dans ma vie intérieure. Si j'éteins ça, si j'étouffe ça, ça peut suffire. D'autres pères, comme Poimen lui-même, était l'homme qui ouvrait la boîte et regardait de près le scorpion et se rendait compte que les grandes pinces ne sont pas dangereuses, mais que c'est la toute petite queue qui est effrayante. Hein? Et donc, il suffit de regarder la toute petite queue, de ne pas se laisser effrayer par les grandes pinces, et à ce moment-là, il ne se passe rien.
Vous parlez des deux échelles, justement, l'échelle de l'orgueil, quand on la monte, on s'abaisse en fait. Et puis, paradoxalement, effectivement, l'échelle de l'humilité, quand on descend, on est élevé.
On est élevé. Déjà, Augustin avait, je cite à un moment tout un passage d'une homélie, Augustin est un des tout grands maîtres de ce paradoxe. Je crois que c'est celui qui a, en premier dans le monde latin, revalorisé le mot « humilitas ». Il y a d'ailleurs une lettre qu'il adresse à un philosophe. Il lui dit, quand tu as lu tous les livres, mais sache que dans notre tradition, en haut de la page, tu mettras humilité. Au milieu de la page, tu mettras humilité. à la fin de la page, je tiens. Et si tu continues d'insister, je te dirai encore humilité, humilité, humilité.
Mais comment, dans notre contexte, quand même, résister à ces sirènes-là? Parce qu'on sait aujourd'hui, dans le discours contemporain, ne serait-ce que dans l'entreprise, il faut grimper, prouver qu'on est bon, il faut dépasser les autres, il faut être au-dessus des autres si vous voulez réussir. Difficile, hein, l'humilité dans ces contextes-là, quand on travaille, par exemple.
Certainement. En même temps, on commence à entrevoir que c'est aussi souvent contre-productif. Et on se rend compte aussi que certaines exigences du métier rendent mon propre cœur extrêmement dur et je deviens incapable d'éduquer mon fils, incapable de me rapporter tendrement à ma femme. Les effets de certaines disciplines de compétitivité, dominance, etc., peuvent être désastreuses pour l'épanouissement de ma personne. Et donc, il faut que je prenne du temps, que je vais m'asseoir, que je réfléchisse, que je découvre qu'il y a peut-être encore des manières un peu plus sages, un peu plus complexes, pour que mon entreprise dure et qu'elle ne soit pas constamment en éliminant les faibles, en écartant ceux qui n'ont pas cette compétitivité et finalement en vivant avec un tout petit cercle de gens qui sont imbuvables pour eux-mêmes et entre eux.
Ouais, c'est ça aussi le combat hein, dans la vie contemporaine aujourd'hui. Ouais. Ça suppose des choix.
Ça suppose des choix, une réflexion commune, une solidarité avec ce qui est faible. La dynamique de Jésus, à un bon moment dans Saint Matthieu, il met le faible au milieu. Il prend l'enfant comme critère de la vie communautaire. Jean Vanier a fait la même chose avec l'handicapé. Arriverons-nous sociétairement à une dynamique qui respecte cela? Je crois qu'on aura une société autrement plus heureuse que celle qui continuellement joue des coudes et écrase ceux qui ne sont pas dignes d'elle.
Nous terminerons demain ces entretiens. Merci à vous.